Livre rouge.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad.
Avez-vous déjà vu la nuit disparaître? L'ombre derrière vous vous suivre? Non? Eh bien, dans la chronique Âme sensible s'abstenir, le bien et le mal n'auront pas de limite. Tout sera terriblement sinistre.
Vous êtes bien sur Radio Kick en Grogne 101 FM.
Radio Kick en Grogne, 5 MHz FM.
Bienvenue à toutes et à tous sur les 101 FM de RQQG.
Radio Kick en Grogne, 40 ans sur la même longueur d'onde.
L'histoire que je vais vous raconter a été écrite par deux hommes. Évidemment, pour parler d'histoire de femmes. Mais deux hommes pas comme les autres, Pierre Belmar et Jacques-Antoine. Eh oui, célèbres chroniqueurs à frissons. Alors frissonnons ensemble avec 5 balles à ailettes. Le 6 novembre 1970, une femme de 27 ans pénètre dans une armurerie. Elle n'a ni la passion des armes, ni celle de la chasse, mais née à Saïgon toute son enfance, pendant la guerre d'Indochine, elle a vu et entendu parler des armes à feu par son père et ses frères. Et elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est une jolie femme, aux longs cheveux noirs, au visage ovale, où transparaîtrait un rien de vulgarité si l'épaisseur des traits réguliers n'était corrigée par l'éclat et l'intelligence du regard. Le nez est assez fort, la bouche un peu trop épaisse, le menton un peu trop solide. Mais les yeux, noirs, sont terriblement vifs, sous un front particulièrement haut. L'armurier regarde avec étonnement cette jeune femme vêtue modestement d'un ample manteau brun de laine épaisse pénétrer dans son magasin. Dans cette petite ville des environs de Paris, il est bien rare de voir une femme acheter une arme. Oh, sans doute veut-elle un pistolet d'alarme. Non. Elle veut un fusil de chasse. Un fusil puissant, à deux coups, une arme d'occasion, bien sûr. Quant aux munitions, 5 balles lui suffiront. De ces balles à ailettes utilisées pour la chasse aux sangliers. Quelques instants plus tard, la jeune Marie-Claude pénètre dans une quincaillerie où elle achète une scie à métaux et 10 lames. 10 lames, car elle sait que les lames à métaux cassent facilement. Donc, Marie-Claude rentre chez elle avec à la main son fusil à deux coups dans un papier d'emballage, ses 5 balles à ailettes et sa scie à métaux. « La voisine qui gardait les trois enfants de Marie-Claude ramasse très vite son journal et son tricot et s'en va. Il faut comprendre la voisine. Elle a entendu 10 fois Marie-Claude lui raconter son histoire et, une fois de plus, serait de trop. Car l'histoire de Marie-Claude n'est pas drôle. Elle est même tragique. Mais comme la voisine n'y peut rien, elle préfère rentrer très vite chez elle pour regarder le mot le plus long à la télévision. Marie-Claude fait manger ses enfants, qui ont respectivement 4 ans pour la fille et 6 et 19 mois pour les deux garçons. Puis elle les couche et leur raconte une petite histoire. Il était une fois un petit garçon. Si petit qu'on l'appelait le petit poucet. Parce qu'il n'était pas plus haut que mon pouce. Mais le pouce qu'elle montre à ses enfants tremble un peu. La voix est rauque et les yeux embués de larmes. Lorsque les enfants sont endormis, Marie-Claude déchire le papier d'emballage d'où émerge le lourd fusil luisant de graisse. Puis elle fixe l'une des 10 lames à la scie à métaux. Certes, l'histoire de Marie-Claude n'est pas unique. Certes, Marie-Claude n'est pas innocente et elle a eu des torts. Toute sa vie est une série de passions. Elle est passionnée de théâtre, passionnée de musique, avec une sensibilité et une émotivité sans doute exagérées. Lorsque sa famille est venue s'établir en France, elle a choisi d'y être éducatrice spécialisée auprès des enfants débiles mentaux. Elle a épousé un premier garçon, un étudiant, dont elle a eu 2 enfants, avant de divorcer pour la raison qu'il n'assumait pas ses responsabilités. C'est peut-être vrai, mais Marie-Claude était peut-être une responsabilité trop lourde pour les frêles épaules d'un étudiant. Et puis, peut-être aurait-elle pu réfléchir avant de l'épouser? Hélas, parce qu'on ne change pas, parce qu'on ne peut pas changer, parce que l'on reste toute la vie ce que l'on est, même si ce que l'on est vous déplaît. Elle a recommencé la même sottise en épousant 2 ans plus tard un Vietnamien qu'elle connaissait depuis toujours. Un garçon intelligent et charmant. Mais réputé pour sa violence et qui sortait de prison avec, pour toute spécialité dans la vie, l'habitude de frapper ses adversaires à coups de poing. Dans la maison de Marie-Claude, on n'entend que 3 bruits. La télévision de la voisine, les ronflements du voisin qui s'est endormi dans son fauteuil et la scie à métaux. Marie-Claude a serré la crosse du fusil entre ses cuisses, appuyé le canon sur le bord d'une table et saisi l'outil d'une main ferme. Lentement, la lame mord dans l'acier bleu. Marie-Claude, en sueur, retire le pull dont le col roulé a été rendu lâche par trop de lavage et reste en soutien-gorge pour continuer sa sinistre besogne. Son second mariage n'a rien changé. À nouveau, la naissance d'un enfant et l'angoisse du temps qui passe trop vite. Des horaires impossibles, le travail absorbant qui se prolonge à la maison, des réunions tardives pour parler théâtre, danse, expression corporelle, politique. Trois jeunes enfants dont il faut s'occuper tant bien que mal, à tour de rôle, plus d'échange, plus d'intimité. Elle, avec sa passion pour son métier d'éducatrice et sa recherche de l'absolu dans les arts, lui, avec ses rêves, ses fantasmes, ses rancœurs d'homme aigri. Mais les responsabilités de chef de famille, c'était Marie-Claude qui les assumait. L'argent qui les faisait vivre, c'était Marie-Claude. Le ménage, c'était Marie-Claude. Les courses, c'était encore Marie-Claude. Le peu de raison, de discipline mentale et physique grâce auquel survivait ce ménage à la dérive, c'était encore Marie-Claude. Jean-Paul, ce n'était plus rien. Thank you. ne restait plus qu'un dixième de millimètre d'acier. Un tout petit dixième. Marie-Claude donne un coup sec de la paume de la main sur l'extrémité du canon. L'acier casse d'un coup et le bout du canoncier tombe sur la table. Elle relâche les cuisses et retourne le fusil dont tombe la limaille en fine poussière. Une poussière qui ressemble à celle des jours passés, impalpable et meurtrier. C'est au mois d'octobre de l'année précédente que Jean-Paul s'est révolté. Comme elle lui tenait tête, il a voulu l'étrangler et l'a battue au point de provoquer un éclatement du tympan. Tandis qu'on la conduisait à l'hôpital, où elle devait rester 8 jours, Jean-Paul se résignait à aller consulter un psychiatre. L'homme de l'art a vu en lui un homme intelligent, mais totalement en marge de la société, dont le psychisme paraissait assez faible. Un homme qui ne pouvait que détruire tout ce qu'il entreprenait. Un traitement fut décidé, sans grand espoir. Chaque fois que le médecin raccompagnait Jean-Paul vers la porte, il lui disait « Il ne faut pas recommencer ». Mais devant les clients qui attendaient, Jean-Paul répondait oh, « Hélas, je sais que je recommencerai. Je ne le veux pas aujourd'hui, mais je sais que je recommencerai. » « Dans ces conditions, dit le psychiatre, il vaudrait mieux se séparer. » Dans la nuit du 3 novembre, 11 mois plus tard, Marie-Claude vient de ranger le fusil à canoncier et de se coucher. À 7 heures du matin, elle se lève, fait sa toilette, s'habille, nourrit et prépare les enfants. Et lorsque la voisine frappe à la porte vers 9 heures, elle lui explique qu'elle ne devra garder que les 2 aînés, car elle emmène le plus jeune. L'enfant, emmitouflé dans ses bras, elle prend l'autocar qui va la conduire chez sa mère. Le psychiatre avait raison. Le seul remède pour Jean-Paul, la meilleure chose à faire pour Marie-Claude et pour les enfants, était qu'ils se séparent. Il fut donc décidé ainsi. Et la jeune femme s'installe seule avec les 3 enfants, dans l'appartement qu'elle habite aujourd'hui. Seulement, une jeune femme de cet âge et de ce tempérament ne reste pas longtemps seule. Elle a rencontré un jeune et bel externe des hôpitaux qui est venu vivre avec elle. C'était un garçon calme et prudent. « mois de février suivant, Jean-Paul envoya à Marie-Claude un petit mot, lui fixant un rendez-vous, ainsi qu'à son amant, pour, disait-il, régler définitivement les détails de leur séparation. Le lieu du rendez-vous était un bar proche de l'hôpital. Et l'amant, toujours prudent, fit venir en consommateur discret et attentif plusieurs de ses camarades.
Sur Radio Kick en Grogne 101 FM.
Radio Kick en Grogne, 5 MHz FM.
Bienvenue à toutes et à tous sur les 101 FM de RQQG.
Radio Kick en Grogne, 40 ans sur la même longueur d'onde.
La scène fut d'une banalité attristante, à tout point de vue. D'un côté, l'amant prudent qui a l'impression de s'être fait fourvoyer, de l'autre, le mari pâle, tremblant et surexcité, au milieu de Marie-Claude, digne et partagée. Digne, ce sont les témoins qui le disent. À partir de cet instant, en effet, il devient difficile de la critiquer. Son mari proposait de reprendre la vie commune et d'aller habiter à la campagne, dans la Somme.
tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra, tu me ramasseras dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras
Mais Marie-Claude avait compris que c'était impossible. Certes, elle était amoureuse de son externe, certes, le mari était très malheureux, il n'en est pas moins vrai qu'il eût été stupide de vouloir reformer un foyer que tout condamnait et d'enfermer entre quatre murs, à la campagne, trois enfants et un couple fait pour s'entre-dévorer. Une femme probablement névrosée et un homme en proie à des crises alternatives de violence et d'abattement, à la limite de la folie. Marie-Claude et l'amant prudent demandèrent donc à réfléchir. Ce fut la fin de l'entretien. Il ne restait plus au classique trio qu'à se séparer dès la sortie du bar. C'est alors que Jean-Paul, subitement, s'est jeté sur son rival, l'a terrassé et frappé dans une folie meurtrière subite. Heureusement, les amis de la victime, alertés par les cris de Marie-Claude, sont intervenus à temps. Mais la surexcitation de Jean-Paul était telle que la police, après consultation du psychiatre qui le soignait depuis 6 mois, et l'avis de Marie-Claude, le fit interner d'office dans un asile après ce dernier exploit. Avec raison, dira la défense plus tard, à tort, diront les autres. S'il s'est mis en colère après tout, c'est parce qu'il était trompé. Nous sommes maintenant le 7 novembre, en fin de matinée. Et Marie-Claude amène chez sa mère son plus jeune fils, celui de Jean-Paul. Sa mère est une grande femme brune, avenante et tendre. C'est avec plaisir qu'elle accepte de garder l'enfant quelque temps. On ne sait jamais ce qui peut arriver, lui explique Marie-Claude. Mais oui, tu as raison, dit la mère en faisant des guili-guili à l'enfant. Tout peut arriver en effet. Lorsque Marie-Claude est allée voir son mari à l'asile pour la première fois, il lui a expliqué clairement sa décision. Plus question de divorce, ni de reprendre la vie commune, puisque je suis fou. Mais tant qu'à être fou, je serai fou jusqu'au bout. J'ai l'intention de vous tuer, toi et les enfants. Bouleversée, Marie-Claude raconte cela à ses amis. Mais tout le monde lui dit « Mais non, voyons, ce sont des paroles en l'air. Allons, allons. C'est un excité, mais il n'est pas si dangereux que ça. » Le psychiatre lui-même avoue son incertitude. Certes, c'est un impulsif, mais ce n'est peut-être qu'un impulsif. Mais est-il, oui ou non, capable de tout ? Demande Marie-Claude. Oui, bien sûr, cette sorte d'impulsif est capable de tout. Même de tuer les enfants ? Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il le fera. Et l'amant, le bel externe des hôpitaux, que pense-t-il de cela? Un après-midi, il est revenu tout seul à l'appartement, il a fait ses valises et Marie-Claude ne l'a plus revu. Il laissait simplement une lettre indiquant qu'il se trouvait dans la nécessité de rester seul pour réfléchir à la situation. Je suis à bout. J'ai peur. Aidez-moi, suppliait Marie-Claude autour d'elle. Et on lui répondait, paraît-il, « Allons, calmez-vous, ça s'arrangera !» Arranger quoi ? Pour l'instant, la grand-mère fait des sourires béats à son petit-fils et Marie-Claude s'en va. « Au revoir, maman, » dit la fille. « Au revoir, » dit la mère. C'est tout. Pourtant, la mère a toujours pensé que son gendre était fou. Elle a toujours pensé qu'il était capable de tout. Le père, de son côté, a reçu des coups de téléphone de Jean-Paul qui lui a dit, à plusieurs reprises, « Je ne veux pas que Marie-Claude et son amant quittent un jour la ville avec les gosses. Je les tuerai. » Ce à quoi le père s'est borné à répondre que pour que l'on tue ses petits-enfants, il faudra lui passer sur le corps. Lors d'une seconde entrevue à l'asile, Jean-Paul a renouvelé ses menaces et a déclaré « Tu sais, il y a longtemps que je mijote mon cou. Depuis le jour même où tu es parti. D'ailleurs, j'ai acheté un revolver. Ah, ne le cherche pas chez moi, il est caché. » Marie-Claude a prévenu la police. Celle-ci s'est renseignée et c'était vrai. Jean-Paul avait acheté une arme le lendemain de son départ. Mais rien ne prouvait qu'il avait l'intention de s'en servir. D'ailleurs, pour le moment, il était à l'asile. Et s'il en sortait un jour, oh, il serait temps d'aviser. Marie-Claude a quitté sa mère et de retour chez elle en début d'après-midi, elle délivre la voisine, prend la main des deux autres enfants et les conduit chez son premier mari. Il est là, un peu sévère, l'éternel étudiant qui l'attend avec sa mère. Ils sont là parce qu'elle les a prévenus par téléphone il y a plusieurs jours. « Lorsque les enfants seront chez vous, en sécurité, » avait-elle dit, « ce qui pourra survenir a moins d'importance. » Marie-Claude avait très peur et son ex-belle-mère était touchée par la sincérité de son émotion. Elle était touchée. Mais rien de plus. Elle aussi savait Jean-Paul capable de tout. Mais l'important n'était-il pas que ses petits-enfants soient là, en sécurité? Aujourd'hui, à la silhouette triste qui s'éloigne dans le vieux manteau de laine brun, elle dit simplement « Au revoir ». Elle ne lui propose pas de rester là, de prendre une tasse de thé. Elle ne lui demande pas ce qu'elle va faire, ni si elle a des nouvelles, surtout pas. Elle sait d'avance que Marie-Claude ne peut rien faire, sinon une quelconque bêtise, et que les nouvelles sont mauvaises. Car tout le monde sait que les nouvelles sont mauvaises. Lors de la dernière visite à l'asile, Jean-Paul a déclaré à Marie-Claude
sur Radio Kick en Grogne 101 FM.
Radio Kick en Grogne, 5 MHz FM.
Bienvenue à toutes et à tous sur les 101 FM de RQQG.
Radio Kick en Grogne, 40 ans sur la même longueur d'onde.
Depuis que je suis ici, je joue la comédie. Je me tiens très, très sagement. Et j'ai obtenu que mon placement d'office soit transféré en placement volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque je suis là volontairement, j'en sortirai quand je voudrais. Et quand tu sortiras? Qu'est-ce que tu feras? Oh, ne revenons pas là-dessus. Tu le sais très bien. Alors, je vais mettre les enfants à l'abri. Peu importe. Si je ne peux pas les atteindre, je peux t'atteindre. Et de toute façon, tu ne pourras plus jamais les avoir auprès de toi. « À partir de cet instant, Marie-Claude a vécu dans une véritable terreur. Elle savait que Jean-Paul sortirait de l'asile. Tout le monde le savait, mais tout le monde se dérobait. Non seulement tout le monde se dérobait, mais tout le monde la fuyait. On n'aime pas les gens tristes qui ont un problème. Le vide se fait autour d'eux, c'est bien connu. Ces histoires qu'ils vous rabâchent, on les connaît, et les conseils qu'on leur donne, ils ne pourront pas les suivre. Ce qui lui arrive était trop grave pour qu'on puisse y prendre une responsabilité. Tout ce qu'on pouvait faire était de la laisser en tête-à-tête avec son problème. À elle d'essayer de le résoudre, même si c'était impossible. La mère et le frère de Jean-Paul, qui le connaissaient bien pour avoir souffert de sa folie, le savaient aussi, mais préféraient se taire. Lorsque Marie-Claude apprit que son mari allait sortir de l'asile 3 jours plus tard, elle se retrouva seule. Le psychiatre à qui elle a téléphoné ce jour-là lui a répondu « Je ne peux rien faire. Certes, votre mari est dangereux, mais ce n'est pas vraiment un malade mental. Or moi, je ne peux retenir ici qu'un malade. Je ne peux pas retenir un homme légalement sain, même s'il est en passe de devenir un assassin. » À la police, on lui a répondu quelque chose dans le genre « Qu'il tue d'abord, on l'arrêtera après. » Il faut savoir, en effet, que la prévention dans le crime des particuliers est rare. C'est alors que, prise de panique, Marie-Claude a décidé de se séparer des enfants et d'aller acheter, chez l'armurier, un fusil de chasse à 2 coups et 5 balles à ailette. Il y a un monstre dans cette histoire. Le seul, le vrai monstre. Il a commencé à montrer le bout d'une moustache avec la voisine. Une oreille avec la mère de Marie-Claude. L'autre oreille avec son père. Le museau avec le premier mari et sa mère. Un œil morne avec le bel externe des hôpitaux. Un œil glacé avec les parents de Jean-Paul. Et puis, finalement, il est apparu tout entier avec la population de cette petite ville. Sa police et ses psychiatres. À chacun ses petites affaires, à chacun ses petits règlements. Ce monstre, c'est l'égoïsme, l'indifférence, l'inattention volontaire. Si ce qu'a prétendu la défense est vrai, Marie-Claude, dans la solitude de ses nuits interminables, convaincue qu'elle a réellement tout à craindre pour elle et ses trois enfants, prise de panique sous le coup d'une immense frayeur, a donc décidé d'attaquer pour se défendre. Le matin du 8 novembre, la veille du jour où son mari va sortir de l'asile, ayant mis ses enfants provisoirement à l'abri et consciente, sûrement, de l'avenir affreux que son geste lui réserve, elle revêt son éternel manteau de laine brune, y cache le fusil à canon scié dans laquelle elle a glissé deux des fameuses balles à ailettes et prend l'autobus pour se rendre à l'asile. Il fait un temps superbe. Le froid est vif, mais le ciel est d'un bleu égal, clair, indifférent. À l'asile, on est un peu étonné de la voir. « Mais votre mari sort demain, madame !» lui dit un employé. Mais comme rien n'interdit qu'une femme vienne voir son mari, même s'il sort le lendemain, elle est conduite au parloir. Elle reste debout et elle attend. Sous son manteau, le fusil à canon s'y glisse plusieurs fois et plusieurs fois elle le relève. Les minutes passent. Elle regarde à travers les vitres le parc glacé où vont et viennent les gens emmitouflés. Des malades sans doute, mais sans doute inoffensif. Son mari leur a-t-il fait des confidences? Probablement pas. Et quand bien même, qu'est-ce que cela changerait? Puis la jeune femme entend des pas dans un couloir. Les pas approchent. Au moment où la porte s'ouvre, Marie-Claude lui tourne le dos. Elle entend la voix de Jean-Paul. Bonjour Marie-Claude. Tu es tellement pressée de me voir. Marie-Claude est tremblante. Dans un vestige brumeux, elle tourne seulement la tête. « Es-tu toujours décidé à nous tuer, les enfants et moi ?»« Oui. » »« Même si je revivais avec toi ? Oh, inutile de revenir. Je sais maintenant que c'est impossible. Cette fois, Marie-Claude s'est retournée brutalement. Elle tire le fusil à canoncier de dessous la cape brune et presque sans viser, elle appuie deux fois sur la gâchette. Dans le parloir lugubre, les deux coups de feu font un bruit énorme. Jean-Paul porte une main à son épaule et l'autre à la poitrine. Il fait un pas en arrière, s'appuie contre la porte et glisse lentement sur le sol. Ses paupières s'abaissent lentement sur ses yeux étonnés et il murmure tu as raison. Maîtrisée sans résistance par les infirmiers, Marie-Claude sanglote dans les locaux de la sûreté, mais n'exprime aucun regret. Je savais ce qui m'attendait, mais je ne pouvais pas faire autre chose. Il nous aurait tués. Il avait dit, il l'aurait fait. Ce récit est bien sûr la thèse qu'exposera la défense aux assises un an plus tard. La thèse de l'accusation sera bien entendu différente. Selon elle, Marie-Claude est dominatrice, supérieurement intelligente, entière, et si elle a pu se séparer facilement de son premier mari, elle n'a su comment venir à bout du second. Un homme violent qui opposait une hostilité farouche à toute séparation et refusait la discussion. Deux éléments, dira l'avocat général, déclencheront ce drame froidement prémédité. La disparition de l'amant après les coups qu'il a reçus du mari, et l'échec de l'internement d'office, devenu un placement volontaire. Pour Marie-Claude, cela veut dire qu'elle a perdu son amant, que son mari va sortir et qu'il va lui demander des comptes. Je crois que telle était son intention, mais au dernier moment, sa volonté inébranlable lui a fait, pour la première fois, défaut. Les jurés ne suivront pas les défenseurs qui demandent l'acquittement de Marie-Claude. Selon eux, elle agit en état de pré-légitime défense. Elle fera 8 années de réclusion. Pourtant, un journaliste tirera de cette affaire la vraie conclusion en disant, sans doute, ce malheur aurait-il été évité il ne lui reste qu'une chose à faire, tuer son mari et se suicider. Je crois que telle était son intention, mais au dernier moment, sa volonté inébranlable lui a fait, pour la première fois, défaut. Les jurés ne suivront pas les défenseurs qui demandent l'acquittement de Marie-Claude. Selon eux, elle a agi en état de pré-légitime défense. Elle fera 8 années de réclusion. Pourtant, un journaliste tira de cette affaire la vraie conclusion en disant « Sans doute, ce malheur aurait-il été évité, quelle que soit la vérité, si quelques regards attentifs s'étaient tournés vers le cas de cette jeune femme. » Encore ce journaliste est-il particulièrement réservé dans les termes et prudent dans sa conclusion. À la place de regards attentifs, on aurait préféré amour ou affection.
Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan.
Je vous dis à samedi 14h pour une nouvelle histoire à frissons, et n'hésitez pas à réécouter en podcast nos émissions sur le site rqqg.fr. Bonne écoute sur la radio QQG.
De mon cœur, ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon